témoignage, échange, discussion. Au réseau Cogeco, voici Dan Bigra.
Salut et merci beaucoup d'être avec nous partout, à Québec, Montréal, en Outaouais, en Mauricie, au Saguenay et en Estrie. En deuxième heure, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez fait preuve de résilience dans votre vie de famille depuis la pandémie? Parce que on sait qu'il faut être débrouillard. Quasiment artiste, c'est barré hein, pour trouver des solutions. C'est difficile pour tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes bien organisé avec ça? Puis alors, donc, je vais recevoir vos appels. Mais en première question aujourd'hui, si on vous annonçait qu'on devrait envoyer un de vos proches dans une résidence pour aînés aujourd'hui, quelle serait votre réaction? Je tiens beaucoup à votre réaction. Vous avez juste à m'appeler au 514-790-9850 ou si vous êtes en dehors de la ville, sans frais, le 1-866, même numéro, 790-9850. On a avec nous Pierre Blin, qui est président directeur général de l'organisme Les Usagers de la Santé du Québec. Bonjour, M. Blin.
Bonjour, M. Big. Ça va bien?
Oui, moi, ça va bien, mais je suis pas... je suis indépendant, moi, je peux m'organiser. C'est la peur. C'est la peur de tout le monde, hein? De perdre sa liberté de par sa santé. Puis à ce moment-là, si ça arrive, on veut être pris en charge de bonne façon. Puis là, ça recommence.
Vous avez raison. Et parce que notre système de santé, il y a deux types. Il y a les CHSLD qui sont des institutions privées, publiques. Et vous avez ensuite ça les résidences privées. Mmh. Et dans le cas des résidences privées, c'est moins bien encadré que je peux dire dans le public. Puis même dans le public, on l'a vu récemment avec tous les problèmes qu'on a pu avoir.
Bien sûr. Donc, en ce moment, on parle de résidences privées pour aînés. Chartwell, Bois de Boulogne, située à Montréal. C'est une résidence qui offre toute une gamme de services. Elle a des résidences privées, mais aussi des CHSLD.
Vous avez raison, ils ont des CHSLD et j'ai été obligé d'intervenir souvent dans ces CHSLD-là, le long de ma carrière, parce que souvent, il y a eu des problèmes, des manques de services qui ont été faits. Donc, quand on voit maintenant qu'il y a une résidence privée et de Chartwell et qui a aussi des problèmes, cela ne m'étonne pas. Parce qu'avant tout, Chartwell, c'est une entreprise privée qui est présente partout à travers le Canada et qui a énormément de résidences. Et c'est son gagne-pain et ils ont des profits tout de même assez importants.
Ah ben, on sait que c'est une manne, hein? Oui. Y a beaucoup de compagnies qui s'intéressent à ce marché-là. C'est excessivement payant. C'est triste à dire, c'est une des seules journées où vous ne m'entendrez pas chialer après les différences de classe sociale. C'est un peu mon dada d'habitude. Mais maintenant, que tu aies beaucoup d'argent ou que tu n'en aies pas, tu es maltraité pareil.
Vous avez raison. Et ce n'est pas l'argent qu'on paie à l'intérieur, c'est plutôt les services qu'on est en droit de recevoir. Moi, j'ai vu des résidences privées qui sont très bien, mais qui sont de type plus familial. Quand le patron, le propriétaire est sur place, souvent, on va avoir un meilleur service parce que les gens vont compatir avec ceux qui sont là. Dans le cas d'une entreprise, si le directeur général ne génère pas les profits qu'on veut, on le change.
Oui, puis le conseil d'administration est ailleurs.
Exactement.
Il ne voit pas la souffrance.
Non, il est à travers le Canada. Il est quelque part caché, peut-être à Toronto. Et en passant, c'est ça qui est un peu problématique. Je sais que Marguerite Blais, hier, a dit qu'elle voulait faire une enquête indépendante. Sauf que le gouvernement ontarien a décidé hier d'instituer une enquête indépendante sur toutes les résidences privées en Ontario. Pas seulement que dans un cas, mais dans toutes les résidences privées. Et je pense que peut-être qu'il faudrait que le gouvernement du Québec réfléchisse aussi à une mesure semblable. Quels sont les services qu'on veut offrir aux résidences privées? Et surtout, est-ce que...
Les services humains, pour commencer.
C'est en plein ça. Et surtout, est-ce que les propriétaires rendent les services auxquels les gens ont besoin?
Et on s'entend que la sonnette d'alarme, il y en a une qui s'est tirée pendant la COVID, c'est certain, mais ça date pas de là. Ça avait commencé bien avant.
Ça fait très
et la, la, et la ministre Blais, j'ai rien contre elle personnellement, mais son travail, c'est de s'occuper des aînés. Elle dit tolérance zéro, mais elle disait tolérance zéro aussi quand elle était sous les libéraux. Je vois pas trop ce qui a changé. Ça fait longtemps qu'on tire la même sonnette d'alarme. Alors évidemment, quand ça fait les manchettes, ben, quelques petites mesures, on va promettre plus de personnel. Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de manque de personnel encore.
Vous avez raison. Moi, là, je suis principalement dans ce domaine-là depuis 30 ans, plus particulièrement depuis 10 ans, directement dans ces résidences-là, et je n'ai jamais vu de vraie amélioration. La perception du public, c'est de dire « allez pas dans un CHSLD parce que les services sont pas bons ». C'est une perception, je vous dis pas que c'est le cas, parce qu'il y a d'excellents CHSLD, mais la même problématique existe depuis 30 ans. Et il n'y a rien qui a changé depuis ce temps-là.
Est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, envisager, oui, une enquête par un organisme indépendant, faite de façon... Mais bon, c'est beau, l'enquête. On sait déjà que ça existe. Mais l'enquête servirait peut-être à repérer ceux qui font vraiment mal leur travail. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'investir dans un employé qui serait sur place toute la journée... et qui, en fait, trois employés, chacun 8 heures pour couvrir les 24 heures, et qui surveillerait pour que les services soient bien appliqués à l'année pour éviter cette maudite aller-retour tout le temps qu'on fait. On en parle dans les médias, il y a un petit peu de changement, puis ça revient tout de suite après en arrière, aussitôt qu'on n'en parle plus dans les médias. Mais nos personnes aînées souffrent le martyre, c'est même pas humain. Alors, est-ce qu'on pourrait laisser envisager dans tous ces centres-là qui abritent nos parents, nos grands-parents, qu'on aime, est-ce qu'on pourrait pas envisager quelqu'un qui, est sous, qui surveillerait ça perpétuellement?
Je pense que vous venez de donner la solution. Et à mon point de vue, M. Bigra, vous devriez être le ministre de la Santé.
Non, non, pitié. Merci.
Moi non plus, je veux pas.
Non, mais des fois, je chiale à la vraie ministre Blais, mais je comprends que c'est difficile aussi. Là.
C'est pas difficile. Enfin, excusez-moi, là, quand je dis c'est
allez-y,
pas difficile.
Allez-y.
Depuis 2002, il existe une politique de milieu de vie. Madame Blais nous annonce qu'ils vont revoir, ils vont faire encore une autre politique. 2002, la politique de milieu de vie disait qu'il fallait que les gens se sentent chez eux et qu'on doit adapter les problèmes, les services en fonction de tout ça. Moi, j'ai regardé toutes les évaluations qui sont faites en CHSLD, le ministère en fait, les autres professionnels en font. Nulle part, dans aucun de ces établissements, on appliquait la politique de milieu de vie. Ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on fait une politique pour les employés avant de faire une politique pour les personnes qui y résident. L'adaptation des services, donner un bain à quelqu'un, ben ça peut se faire. Ça peut se faire facilement. Mais tant qu'on n'aura pas appliqué vraiment une politique de milieu de vie, qui est là depuis 2002, comment voulez-vous qu'on puisse faire changer les choses? Et ça vient, normalement, aussi avec des sanctions. Si vous avez un employé qui ne répond pas à vos besoins...
Il faut avoir un petit pouvoir coercitif quelque part, c'est certain.
D'ailleurs, en 2016, on peut chialer de Barrette, mais Barrette a fait un forum sur les CHSLD et il a fait signer à tous les présidents directeurs généraux des établissements un engagement pour améliorer ces services-là. Normalement, quand on signe un engagement, ça vient avec une évaluation. Moi, je les ai demandé ces évaluations-là. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été faites. Ça veut dire qu'il y a un manque de direction à ce niveau-là. Et quand vous dites que ça prendrait une personne responsable à l'intérieur de chacun des établissements, ben c'est d'abord cette chose-là qu'il faut faire, parce que là, à partir de ce moment-là, on est capable d'avoir une personne responsable.
Oui, puis quelqu'un d'indépendant qui répond à d'autres choses, qui répond à un autre organisme, qui répond peut-être à un autre ministère, mais qui n'essaierait pas de protéger les propriétaires ou...
Voilà.
Donc, quelqu'un d'indépendant. Maintenant, M. Barrette, j'ai rien contre non plus. C'était une bonne idée. Ce qui a fait, ceci dit, il a créé une structure tellement monstrueuse qu'on a l'impression... Vous savez, dans les sous-marins, là, capitaine donne un ordre en avant, qu'il répète un autre en arrière. Puis ça se peut qu'arrivé au 8e en arrière, il y a une grosse faute d'orthographe dedans. Mais oui. Là, j'ai l'impression que c'est une espèce de sous-marin à 1800 personnes.
Vous avez raison, puis je l'ai dit moi-même lors de la réforme. Tout le monde a dit que j'étais le seul qui appuyait la réforme de Barrette, ce qui est faux. J'ai toujours dit pour que la
c'est
réforme...
C'est faux que vous l'appuyez ou c'est faux que vous étiez le seul?
Non, ce que je veux dire, de façon générale, j'étais d'accord pour abolir les agences régionales. C'était okay. Inutile complètement. La seule différence... c'était de dire, il faut que les services soient donnés en bas. J'ai dit, pour que la réforme ait un sens, il faut qu'on délègue au plus bas niveau la prise de décision. Et c'est ça qui n'a pas été fait dans la réforme Barrette. Par conséquent, oui, c'est un monstre administratif parce qu'il n'y a personne de responsable en bas.
Vous savez pourquoi?
Il y a bien des chefs, il n'y a pas d'Indiens.
Oui, ben c'est ça le problème. Si moi je suis habitué de travailler avec les organismes communautaires et ce que je comprends, c'est que les organismes communautaires qui ont ouvert ont été souvent, comme dans le cas du refuge il y a 31 ans, ça a été l'idée de deux femmes brillantes qui ont constaté qu'il n'y avait pas de service pour les jeunes. Alors, ils ont construit un service à leur idée.
Oui.
Donc, ça ne répond pas à toutes les normes gouvernementales. Fait qu'elles peuvent être plus créative avec les solutions, ce que des fois la DPJ ne peut pas parce qu'elle a des ordres gouvernementaux, et surtout elle a des budgets gouvernementaux, on s'entend. Ça, donc on revient un peu à la même chose. Est-ce que faire des grosses structures, c'est pas une grosse erreur? Je prends les organismes communautaires parce qu'ils décident pour eux-mêmes. Puis ça donne d'autres sortes de soins qui sont là, on n'en voit pas des horreurs comme ça.
Je pense que vous venez de donner une réponse. Vous dites que les organismes communautaires ont leur autonomie. Je pense que, mais sauf qu'ils ont leur financement qui vient du gouvernement du Québec et en partie aussi d'une levée de fonds. Je pense que la même chose peut s'appliquer dans le cas des établissements. Il faut qu'ils aient le financement suffisant et qu'ils n'aient pas besoin de quémander et qu'ils doivent rendre des services à l'intérieur des enveloppes qu'on leur donne. Mais il faut que ces enveloppes-là soient suffisantes. Dans beaucoup de cas, justement, ce qui est arrivé dans les CHSLD, l'argent a été détourné pour envoyer dans les hôpitaux. Donc, si on faisait en sorte de protéger les enveloppes et qu'on donne suffisamment d'argent pour que ça puisse être là, et surtout, l'autre chose, qu'on reconnaisse l'importance de la seule richesse qu'on a à l'intérieur du réseau de la santé, savez-vous c'est quoi? C'est son personnel. Donc,
bien
si on
sûr.
Le fait correctement, son personnel, ben on va avoir de bons résultats aussi.
Bien sûr, j'ai traversé deux épisodes de santé, un cancer il y a 3 ans ça s'est très bien soigné et j'ai expérimenté encore le système de santé suite à un petit accident de l'été. Et là, j'ai été traité comme un roi. Et puis c'était pas parce que c'était un chanteur un peu connu, c'était tout le monde était traité comme moi. Les infirmières avaient un sens d'humour, ils nous taquinaient. Alors on sentait littéralement pris en main. J'ai été extrêmement chanceux, et au CHUM et à l'hôpital général de Joliette. On voit que les émotions du personnel sont curatives. Les émotions du personnel qui veulent soigner, soignent les gens avant même de donner les soins qui sont médicalement requis. Parce que en remontant le moral, en dédramatisant, les gens ont plus envie d'aller mieux, ils sont moins désespérés. Mais si on paye ces gens-là, je donne l'exemple en CHSLD, 13,5 $ de l'heure, on peut bien les traiter de héros quand il arrive des crises. Mais si, excusez-moi, j'allais là, j'ai un petit instrument d'église ici. Si on les paye pas, c'est en quoi on les traite de héros? C'est juste la parlotte à ce moment-là. C'est même pas vrai. On les considère pas comme des héros. On les paye pas un salaire décent. Comment voulez-vous qu'ils remontent le moral de qui que ce soit? Ils peuvent même pas donner les bons soins. Quand on est rendu à ce que ça devienne la normalité de discuter de peut-être un bain par semaine, vous imaginez-vous, vous, avoir le droit de prendre un bain par semaine? Moi, il n'y en est pas question.
Moi non plus. Et c'est pas acceptable. J'ai l'exemple d'une madame, moi, présentement, qui est à Longueuil, justement, qui recevait des soins à domicile. Entre autres, elle recevait 2 bains par semaine. Et là, on vient de lui en couper en lui disant, « Bon, on va vous donner plus de services, mais on enlève les bains. » Voyons donc. Le problème est là. C'est toute la machine, et Marguerite Blais devait s'en occuper, mais on n'a jamais eu de réponse. J'ai écrit à la PDG, j'ai jamais eu de réponse. Ce monde-là ne veut même pas nous répondre parce qu'ils veulent pas se justifier.
Oui, mais elle a dit que c'était tolérance zéro.
Eh oui, la tolérance zéro. On la connaît, la tolérance zéro.
Mais c'est une tolérance de 200, je trouve.
On tolère
de niaiser avec la dignité de nos aînés. Quand t'es en couche, puis qu'on te change pas, on peut pas te demander d'essayer d'aller bien, puis de te faire une belle fin de vie le plus possible. On vient de te couper de ta dignité. C'est la moitié de ta vie, ça, déjà là.
Raison. Moi, je me souviendrai de ma sœur. Effectivement, moi, ma sœur a été en CHSLD à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, elle est morte pendant l'épisode de la COVID. Là. Et pour elle, là, justement, l'indignité suprême, ça a été quand on lui a mis une couche. La mère d'un de mes amis, la même chose, un avocat célèbre, et qui a dit « Jamais je vais accepter des choses semblables ». Alors, vous avez raison, la dignité passe aussi par des soins et de s'assurer qu'on se sente propre quand on est là et qu'on a le personnel pour le faire. Oui, le personnel est dévoué, vous avez tout à fait raison. J'ai eu exactement les mêmes expériences aussi. Je me souviendrai comment j'ai été traité de façon merveilleuse par des infirmières.
Je n'oublierai jamais. Ils ont fait partie du fait que je me suis remis de mes deux épisodes. Elles ont fait, au CHUM, vu que je suis resté plus longtemps, je leur ai laissé un panier avec des fromages, des beurres. Je ne savais pas comment exprimer ma reconnaissance. Je n'ai pas mis mon nom dessus. Je veux juste qu'elles soient de bonne humeur parce qu'elles n'arrêtent pas de donner. Et je voulais qu'ils reçoivent un petit peu. C'est juste ça. J'ai même pas marqué mon nom dessus. Puis c'était
correct. J'avais raison. J'ai fait la même chose, moi aussi. C'est la façon. Faut leur montrer notre reconnaissance. La première des choses, ces gens-là, on se préoccupe de nous parce qu'ils sont là. S'ils ont pris cette profession-là, c'est parce qu'ils se préoccupent de nous. Il y en a dans certains cas qui sont un peu nonchalants, mais on peut comprendre avec la pression qu'ils peuvent avoir.
L'autre, il y en a qui sont à bout aussi. On a vu des incidents arriver dans les CHSLD et c'était pas une méchante femme qui s'en occupait, mais a juste pété les plombs à un moment donné, plus capable d'endurer ça, parce que c'est pas humain. Je vais vous dire, on a définancé tous nos services à nos aînés et là, on s'étonne un peu de ce qui arrive. Et savez-vous comment on l'a accepté sans société? Petit à petit. Monsieur Blin, je vous gardais avec moi. Je vous veux de retour de la pause. On va répondre à des questions d'auditeurs. Puis de temps en temps, j'aimerais que vous répondiez à ma place. Ça va m'aider.
Si vous le permettez.
Ah non, absolument. Je l'encourage fortement. On revient tout de suite après la pause.